J'aimerais commencer ce matin, avant d'aller dans les Écritures, en vous lisant ce texte que j'ai trouvé édifiant et qui n'a pas été écrit par moi, et je vous donnerai les informations sur qui l'a écrit, et qui s'intitule « C'est sur les genoux d'une mère que se forgent les nations ». Il y a environ 3500 ans, une princesse a trouvé un petit trésor et qu'elle désirait depuis très longtemps. Elle avait découvert un bébé dans un panier qui flottait sur le bord d'une rivière qui se nommait le Nil. Un nouveau-né hébreu constituait son trésor. Cette histoire bien connue se trouve évidemment dans Exode, chapitre 2. Cet enfant se nomme... Ah, c'est beau à entendre. Et son père s'appelait Amram, et c'était un Lévite. Sa mère s'appelait Jochébed, qui signifie « l'Éternel est gloire », qu'il soit glorifié. Sa mère, esclave, travaillait pour le pharaon égyptien, esclave dans les champs, dans les chantiers de briques. Et pendant son dernier trimestre de grossesse, elle craignait que le bébé qu'elle porte soit un garçon. Parce qu'un édit du roi avait été donné que les garçons seraient tués à leur naissance, les garçons nouveau-nés hébreux. Les parents de Moïse, s'opposant bravement à cet édit du pharaon, avaient déposé leur fils par la foi dans un panier dans la rivière, croyant que Dieu, dans sa providence, conduirait et prendrait soin de cet enfant par la foi. Et ce formidable acte de foi sera souligné dans le Nouveau Testament. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, verset 23, écoutez bien ceci. Hébreux 11, 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. De l'avoir caché comme ça n'était pas un manque de foi, c'était le contraire. C'était une manifestation de leur foi en Dieu. Cette femme ordinaire agissait de manière extraordinaire par la foi pour protéger son petit garçon. Et devenue sa nourrice plus tard, elle a ensuite préparé et façonné pour qu'il puisse se conformer à l'appel de Dieu. Mais il a eu quelques années d'errance, si ce n'est que 40 ans d'errance, avant de pouvoir répondre à l'appel. Et quelle patience que ça peut demander parfois à une maman, avant que l'appel chez notre enfant soit répondu. 40 ans et plus. En fait, c'était à 80 ans, mais il était 40 ans dans le désert. Quelqu'un a déclaré que les desseins d'une nation sont façonnés sur les genoux d'une mère. Moïse, d'abord réticent, a répondu à l'appel de Dieu dans Exode chapitre 3. « Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, dit l'Éternel. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites, un fils, un trésor laissé sur les rives de la rivière par une mère qui avait confiance en Dieu. Et ce trésor allait devenir un sauveur, un délivreur pour son peuple. » Mais vous savez, 1500 ans plus tard, un incident semblable est survenu. Une jeune mère et son mari se sont échappés aussi d'un roi, se sont sauvés en Égypte cette fois-là, et sont revenus 2 ans plus tard pour protéger leur petit garçon, parce qu'un autre roi menaçait de le tuer, encore une fois. Cette mère protégeait son fils et l'éleva dans un foyer consacré pour lui préparer et le préparer à son appel, bien qu'imparfaitement comme parent. S'il existe bien des similitudes entre ces deux trésors et ces deux mères, il est clair que Moïse était celui qui était le sauveur d'un peuple que Dieu a utilisé, mais que Jésus, le fils de Joseph et Marie, ses parents terrestres, est venu pour être notre sauveur pour tous les peuples, les gens de toutes les langues, les gens de tous les statuts sociaux, les gens de toute cette planète au complet, ont trouvé leur rédempteur dans le nom de Jésus. Jésus est venu pour être notre sauveur. Tel est l'extraordinaire trésor que nous pouvons partager avec nos familles, avec nos amis, collègues et étrangers autour de nous que Dieu nous permet de rencontrer. C'est sur les genoux d'une mère que se forgent les nations. Et c'était un texte écrit par notre président de notre association transcanadienne, Steve Jones, qui est celui qu'on a choisi pour être le président de nos 500 églises à travers notre famille, de 500 églises à travers le Canada. Et quel beau texte qui reflète une pensée des Écritures sur l'importance des moments. Amen. Ce matin, je vous invite à prendre le livre de Ruth et nous allons regarder l'histoire d'une mère. L'histoire d'une mère qui a beaucoup souffert. Et ce matin, mon désir, c'est d'encourager les mamans. Évidemment, en encourageant les mamans ce matin, je vais enseigner la parole de Dieu qui se veut un encouragement pour tous et chacun d'entre nous. Et je fais suite ce matin à une prédication que j'ai faite en 2021 pour la fête des mères. Et à cette occasion, j'avais enseigné sur l'importance des moments dans la Bible. On avait pris le temps de regarder toutes les mentions des moments dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et comment le Seigneur met sur un pied d'égalité l'importance de l'instruction de maman et papa en équipe, comment le livre des Proverbes souligne l'importance des mères et des pères dans le livre des Proverbes pour les fils et les enfants d'écouter leurs parents. Et toute l'importance des mères. Et donc, si vous pouvez y retourner, c'était en 2021 à la fête des mères. Et j'avais adressé justement comment Dieu encourage les mamans dans leurs soucis en prenant l'exemple de Agar et en prenant l'exemple de Sarah. Et j'avais voulu aller vers Naomi, mais on n'avait pas de temps. Et ce matin, je fais suite avec Naomi puisqu'on a fait le livre de Ruth l'année dernière. Et j'aimerais aller un pas plus loin dans comment Dieu prend soin d'une maman qui souffre. Comment Dieu est sensible à la mère qui souffre de toutes sortes de situations. Et ce matin, on va parler d'une mère qui, peut-être aucune d'entre nous n'a vécu, mais on peut pas se comparer aux épreuves des autres. Mais d'une maman qui est en deuil des trois hommes de sa vie. Une maman qui a perdu son mari, une maman qui a perdu un fils, qui a perdu un deuxième fils, et qui est maintenant non seulement veuve, mais en plus qui n'a aucun descendant. Deux fils morts avec deux brus qui n'ont pas d'enfants et elle est dans un pays étranger. Et cette femme, je ne mâche pas mes mots, se sent maudite de Dieu. Elle est dans une grande détresse. Imaginez-vous, tous ces morts et là, après ça, toute sa culpabilité. Parce qu'elle savait qu'elle avait quitté le peuple d'Israël, avait quitté la terre promise où ils étaient éprouvés comme conséquence du peuple. Et elle se sauve des conséquences. Elle se sauve de l'endroit béni de Dieu où elle doit rester et faire confiance à Dieu. Elle se sauve dans un autre pays pendant 10 ans et le malheur frappe, frappe et frappe. Et cette femme souffre, est amère, en veut contre Dieu et se sent maudite de Dieu et que Dieu la pourchasse pour lui faire du mal. C'est comme ça qu'elle se sent. Et c'est ce genre de femme-là qu'on va regarder ce matin. Et je vais regarder avec vous comment Dieu en prend soin. Comment Dieu la ramène à lui. Comment Dieu va utiliser des circonstances pour panser ses plaies et faire de cette femme brisée une femme en paix, une femme joyeuse. Lui ramener d'être une femme épanouie et en paix avec son Dieu. C'est pas elle qui le fait. C'est son Père Céleste qui l'a pourchassé et qui l'a accompagné dans un long processus pour l'amener là à travers des circonstances qui sont signées Dieu. Dieu le Père. C'est ce que je vais vous amener à voir ce matin à travers l'histoire de Naomi en faisant suite à cet enseignement d'il y a 3 ans pour la fête des mamans. Je vais sortir la manette et je vous amène directement dans le chapitre 1. Et j'aimerais commencer ce matin en lisant quelques versets de l'état d'âme de cette femme dont je viens de résumer. Et je vous lis littéralement le texte hébreu traduit, comment il sonne et comment il est écrit et comment il décrit ses sentiments. Vous avez au verset 13 du chapitre 1 et le verset 20 et 21, après quoi on va prier le Seigneur pour ce temps ensemble dans les Écritures. « Car je suis très amer à cause de vous. » En parlant de ses brus, de les voir dans sa face, de voir qu'ils ont pu leur mari, de se sentir responsable de tout ça, déjà qu'elle trouve la vie lourde, car la main de l'Éternel est sortie contre moi. Je trouve ça lourd de voir mes brus, ce que vous vivez. Je trouve ça lourd parce que je me sens attaqué de Dieu. Elle dit plus loin, au verset 20-21, ne m'appelez pas Naomi lorsqu'elle arrive à Bethléem. Appelez-moi Mara, amer. Car le Tout-Puissant, Shaddai, m'a rendu très amer. Et donc, l'auteur prend le temps d'utiliser ce qualificatif très pour décrire son amertume deux fois. Comprenons bien ici, là, cette femme, c'est pesant, c'est intense, comment il y a de l'amertume dans son cœur. Je suis allé rempli quand elle est partie dans l'autre pays et Dieu m'a fait revenir sans rien. Il m'a déculotté, il m'a vidé les poches, il m'a ramené humilié, brisé. Pourquoi vous m'appelez Naomi, qui veut dire ma gracieuse? Et l'Éternel a témoigné contre moi et le Tout-Puissant m'a fait du mal. À tort ou à raison, c'est comme ça qu'elle se sent. À tort ou à raison, dans une épreuve, vous vous sentez d'une manière ou d'une autre. Et on n'est pas ici pour juger votre état d'âme, mais de le constater. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est si creux, accablé par les souffrances de la vie et qu'on se sent maudit par Dieu? Bien, ce matin, on va regarder les Écritures et regarder comment Dieu le Père veut s'occuper de eux et de nous. Prions ensemble. Ô Papa Céleste, on s'approche de toi ce matin parce qu'on vient de lire la parole de Dieu, la parole du Créateur, la parole de celui qui prend soin de nous parce que tu nous as fabriqués de toutes pièces. C'est ce que le psaume 139 nous dit. Alors qu'on n'était même pas encore considéré un être vivant pour les citoyens d'aujourd'hui, alors qu'on était dans ce ventre de maman, qu'on était une petite crevette, toute petite, qu'on ne voyait même pas, toi, tu nous as connus. Tu nous as fabriqués, tu nous as tissés comme une mère tisse un tapis, tisse un linge, du matériel. Toi, tu nous as tissés dans le ventre de notre mère. Oh Seigneur, comment est-ce qu'on peut être plus aimé que par celui qui nous a tissés, fabriqués de toutes pièces. Chaque chromosome a été placé par toi. Oh Dieu, fais-nous voir combien tu nous aimes ce matin, combien nous sommes précieux pour toi, et de ne pas se laisser décourager parce qu'il semble au tout être des apparences d'être maudit, d'être dans le désespoir, d'être découragé par les brisements de cette vie, les épreuves qui nous frappent, mais que nous avons, Seigneur, dans les cieux, un Père tout-puissant qui nous aime et qui nous aime concrètement sur terre et qui nous le manifeste, mais on ne le voit pas, Seigneur, souvent. On a besoin de tes yeux pour nous ouvrir notre vision, de nous révéler ta personne, pour te connaître et te voir à l'action, t'observer et avoir tous ces petits clins d'œil que tu nous donnes pour aider à marcher en avant à la suite de Jésus, ton Fils. Oh Seigneur, montre-nous-le ce matin, prends soin de nos cœurs et bénis les mamans. Et ce temps dans ta parole, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Que va faire Dieu avec cette veuve brisée? Alors qu'elle sent que Dieu s'acharne sur elle, qu'il la lâche pas et qu'il veut vraiment l'écraser, la punir sans se retenir. Et Dieu fait une démarche ici avec elle dans les prochains chapitres, tranquillement, à travers des mois, pour prendre soin d'elle. Et il va le faire d'une façon très inusitée. Parce que vous savez, Dieu, on ne peut pas le mettre d'une boîte. Il ne fait jamais les choses de la même façon deux fois. Il ne prendra pas soin de vous comme il prend soin de l'autre. Parce qu'on est tous uniques. Et notre Papa Céleste vient nous rencontrer d'une façon unique, chacun d'entre nous. Parce qu'il sait ce que j'ai besoin. Il connaît ma personnalité. Il connaît mon passé. Il connaît mes blessures du passé. Il connaît mes appréhensions. Il connaît mes craintes. Et il sait venir me chercher d'une façon personnelle, individuelle, avec mon nom, mes chromosomes uniques. Voilà le papa que nous avons. Comment est-ce que Dieu va prendre soin de cette femme? Je vous le dis tout de suite en partant comment Dieu va le faire, les quatre points de manière générale de comment Dieu va faire les choses avec elle. Il ne fera pas la même chose avec vous, ça va se faire différemment, mais les mêmes principes. Mais voici comment il prend soin d'elle en quatre étapes très simples. Premièrement, il lui donne une bru étrangère d'un autre peuple qui ne devrait pas être avec les Juifs, qu'on ne devrait pas marier Et c'est à travers cette étrangère que Dieu veut faire du bien à cette juive. J'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur veut vous bénir, mais pas de la façon que vous pensez. Pas de la personne que vous pensez, pas de langue que vous pensez, et des fois même pas à travers le peuple de Dieu, Dieu peut prendre des étrangers pour vous faire du bien. C'est pas extraordinaire, ça? Ça, c'est le contrôle souverain et total de notre Dieu créateur. Il n'est jamais limité dans la façon dont il va venir nous rencontrer et nous ramener à lui lorsque notre cœur est loin et refroidi. Et il utilise cette femme. Donc, je vous rappelle que les Juifs disaient, c'est Ruth, la Moabite, tellement que c'était dégueulasse de prononcer cette étrangère voisine de ce peuple descendant d'une inceste familiale dont on retrouve dans Genèse chapitre 19 de Lot avec ses enfants. Et Dieu décide de prendre la Moabite. Ce peuple qui n'a pas le droit de venir au temple. Ce peuple qui a fait la guerre à Israël, il prend une Moabite. Non, mais t'es vraiment à court de choix quand t'es rendu là. Non, Dieu n'est pas à court de choix. Dieu travaille dans l'inusité. Dieu travaille dans ce qu'on ne peut pas prévoir. Dieu travaille dans notre angle mort, qu'on ne regarde pas souvent dans notre rétroviseur et qu'on se tourne la tête. Il travaille derrière la scène, à tirer des ficelles, et nous, on ne voit rien se passer. Et c'est pour ça qu'il mérite notre confiance. C'est pour ça qu'il mérite toute notre confiance. Et la parole de Dieu nous en témoigne à travers des histoires aussi inusitées les unes des autres, dans un monde brisé, avec des gens brisés, et il fonctionne à utiliser des gens brisés pour bénir d'autres gens brisés. C'est la beauté de notre Dieu. Et c'est ce que nous dit tout l'Ancien Testament. Deuxièmement, il va bénir à travers aussi une partie de responsabilité qu'ils ont, l'obéissance par la foi. Dieu protège Naomi et Ruth car elles suivent aussi avec foi les prescriptions de la loi. Malgré que ça va pas bien, malgré qu'elles se sentent maudites, malgré tout, elles décident de faire ce que la loi prescrit lorsque tu es une veuve, lorsque ça va pas bien et que tu es pogné à mendier, tu retournes dans ton pays, tu fais confiance à Dieu. Tu t'en vas derrière ceux qui travaillent dans les champs pour glaner, comme la loi le prescrit. Et tu fais confiance à Dieu qui va permettre que dans un champ, tu pourras glaner des restants d'herbe, des travailleurs, pour pourvoir au minimum de tes besoins par la foi dans le Dieu de la loi. Amen. Et pendant que ça allait pas bien, pendant qu'elle pleurait, pendant qu'elle se lamentait sur son sort, qu'elle se sentait loin de Dieu, maudite, la pire des chrétiennes, la pire des juifs de l'Ancien Testament, elle obéit quand même à la loi. C'est possible parfois qu'on obéit à la loi de Dieu, qu'on se sente loin de Dieu, et pourtant, ne minimisez jamais de faire confiance à Dieu le minimum pour juste dire, je vais quand même faire ce que Dieu me dit dans la parole de Dieu. Parce que sa loi me veut du bien. Elle ne veut pas me contraindre. Elle me veut du bien, la loi de l'Éternel. Elle veut me donner de la joie. Elle veut me protéger. Elle veut prendre soin de moi. Elle veut me faire amener à faire confiance à Dieu, d'utiliser la communauté chrétienne, etc. et d'avancer et à travers quelque chose que je ne comprends pas tout le temps, que Dieu va prendre soin de moi. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ruth, qui décide d'adhérer et de faire confiance au Dieu de sa belle-mère, de la suivre alors que sa belle-mère la repousse, puis elle dit, non, retourne dans ton pays, va prendre un Moabite chez vous, là. Peut-être dans sa tête, elle se dit, ça serait déjà qu'on a fait des erreurs chez nous, on va pas l'amener, là. Non, elle est tellement attachée à cette femme, à cette belle-maman, qui est une bonne belle-maman juive, qui croit quand même en l'Éternel, malgré son égarement, qu'elle veut suivre le Dieu de sa belle-mère. Elle veut mourir lorsque sa belle-mère va mourir et d'être dans ce pays-là plutôt que de retourner dans sa famille. Est-ce que je suis tout seul à voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de cette femme? Il y a quelque chose qui se travaille, qui est signé Dieu le Père dans le cœur de cette femme pour voir suivre cette femme juive qui n'est pas de sa culture, qui l'amène dans un autre pays, dans une petite communauté bien ordinaire, Bethléem. Mais qui ne deviendra pas ordinaire. Oh non! qui sera aussi la ville de David, qui sera aussi la ville où va naître Jésus. Voilà où ce qu'il veut, à la maison du pain, où ce que Dieu pourvoit au pain. C'est ce que veut dire Bethléem, maison du pain. Troisièmement, Dieu orchestre toutes les circonstances autour de leur arrivée, leur sécurité et la pérennité dans un contexte difficile. Il permet que dans ce cheminement-là, il va l'amener au bon timing, au moment où il y a de la récolte. Il va amener Ruth dans le bon champ pour rencontrer la bonne personne. Ruth n'avait aucune espèce d'idée où est-ce qu'elle allait glaner. Elle n'avait aucune idée de qui était Boaz. Elle n'avait jamais entendu son nom. Elle connaissait certainement pas bien les lois juives et toute la question d'un rédempteur, de quelqu'un qui te rachète dans ta famille. Elle, ça va juste être une bonne bru. Elle, ça va glaner, mendier et demander la permission de ramasser les restants toute la journée en espérant que les restants qui vont sortir de ce champ-là seront suffisants pour y faire un souper avec sa belle-mère. C'est pas beau, ça? Mais Dieu l'amène au bon champ. Dieu permet et contrôle les circonstances qui vont amener lorsque Dieu veut t'amener dans une rencontre. À voir que Dieu prend soin de toi à travers des circonstances que tu n'as aucune espèce d'idée comment contrôler ça. Parce que seul le Créateur peut le faire. Et ça, là, ça rassure notre âme. Ça nous fait du bien. Et donc, Dieu bénit dans l'inusité avec une bru étrangère du pays d'à côté dégueu. Dieu bénit dans l'obéissance. Dieu va prendre soin d'elle dans le contrôle des circonstances et Dieu va prendre soin d'elle en lui pourvoyant un rédempteur. Un rédempteur, c'était quelqu'un dans ta famille qui pouvait racheter le terrain, qui pouvait marier ta bru et finalement donner une descendance à ce fils qui est mort, qui n'a pas de nom et permettre la pérennité de cette famille, que le nom ne soit pas perdu en Israël parce que chaque nom en Israël était important. Dieu a tout prévu le coup. Et il pourvoit pour un rédempteur. Et là, tout à coup, on comprend plus tard qu'il va venir le. Ça, c'est un rédempteur pour une famille. Mais plus tard, va venir le rédempteur Jésus pour nous racheter tous les vivants pour Dieu le Père. Amen. Mais Boaz est juste une illustration. Une vraie illustration vivante. Mais vous savez quelque chose de particulier de Boaz? Peut-être plusieurs d'entre vous le savez. Mais est-ce que vous connaissez sa grand-mère? C'est qui? Rahab. C'est qui Rahab? La prostituée. Hey, tu parles d'une famille. Non, mais Dieu, il s'est-tu un peu planté dans le choix de la famille? Il amène une Moabite, puis là, il va l'amener éventuellement à rencontrer ce Boaz-là qui vient d'une prostituée cananéenne en plus. Non, mais Dieu, es-tu mal pris un peu? Une chance que Dieu ait mal pris, hein? Non. Dieu aime travailler là où tu n'as aucune espèce d'idée que Dieu travaillerait. Et vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est parce que Dieu fait une descendance à Rahab, la prostituée, que vous et moi, on est sauvés. Sinon, on serait tous perdus. C'est ce même Dieu qui nous regarde puis qui nous voit dans notre merde, dans nos péchés, qui voit les fausses pensées qu'on a sur Dieu, qui voit comment on est brisé par des erreurs de nous et par le mal que d'autres nous ont fait, qu'on n'a pas choisi, et qui nous prend là, dans le fin fond de notre perdition, et qui nous relève. Et qui fait de nous, alors que les gens autour de nous nous regardent comme si on n'était rien, qui fait de nous des fils et des filles du roi des rois. Des héritiers de Dieu le Père, qui fait de Jésus notre frère parfait, venu mourir pour chacun d'entre nous. On devient quelqu'un. Mais le monde autour de nous ne le voit pas. Parce que, à l'œil, on est bien ordinaire. Bien, bien, bien ordinaire. Puis Dieu aime ça. Parce que Dieu ne va pas avec les apparences, avec le statut, le nom de famille, l'apparence, la richesse, les capacités. C'est ça notre Dieu. Je reviens à mon texte. Alors donc, c'est le fils de la prostituée, ce Boaz, qui va rencontrer Ruth la Moabite. Et voici ce qu'on lit au chapitre suivant, chapitre 2. Naomi, la femme qui a tout perdu. Elle l'emporta et rentra dans la ville, en parlant évidemment de Ruth, qui amène le travail de toute une journée de glaner. Et sa belle-mère vit qu'elle avait ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi le repas, le reste de son repas qu'il lui avait donné. Parce qu'évidemment, ils ont eu un repas ensemble. Boaz lui a dit, écoute, viens manger avec nous autres. Puis il y a eu des restants. Elle part avec, amène ça pour ta belle-mère. Et là, elle voit tout ça. Sa belle-mère lui dit, oh, où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Elle n'a aucune espèce d'idée. Mais elle se dit, si ma fille a tout ça, Dieu il est là-dedans. Puis cet homme-là qui a permis ça, c'est un homme bien. Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, il s'appelle Boaz. Ah! Boaz! Le cousin de mon mari. Ou quelque chose comme ça. Et là, Naomi dira ceci. Qu'il soit béni l'Éternel qui n'a pas abandonné sa bonté envers les vivants et les morts. Cet homme nous est proche, lui dit encore Naomi. Il est l'un de ceux qui a le droit de rachat sur nous, un de ceux qui peut devenir notre rédempteur. Cet homme qui, sur le terrain, au verset, chapitre 2, verset 5, va dire que le Seigneur soit avec vous et que les hommes vont dire, ah, que le Seigneur te bénisse. Bien là, Naomi, en voyant les résultats, elle dit, béni soit cet homme sans connaître cet homme-là. Et quand elle entend c'est qui l'homme, elle dit, béni soit l'Éternel. Elle voit que cet homme-là est un outil de Dieu pour lui faire du bien. Et que Dieu a amené par des circonstances complètement au contrôle de Dieu, sa bru qui est ignorante de tout ça, vers le bon champ, au bon moment. Voilà le contrôle de Dieu. Et là, Dieu est en train de travailler dans son cœur. Mais là, si vous regardez bien cette phrase, et que vous voyez qu'il soit béni l'Éternel qui n'a pas abandonné sa bonté. Rapidement, comme lecteur de l'Ancien Testament, il y a un texte qui devrait nous venir un petit peu à la pensée. Et il se trouve dans un des livres qui, à l'apparence, est des plus tristes de l'Ancien Testament et qui s'appelle le livre des Lamentations. Job, c'est l'exemple du gars qui honore Dieu, mais pour une raison quelconque, inconnue, est éprouvé par Dieu, pas par son péché, pour que Dieu se glorifie à travers sa vie, mais lui, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais le malheur frappe. Fait que là, on pourrait dire que Job nous illustre un être humain pécheur, oui, mais qui n'est pas puni pour ses péchés, mais dans lequel Dieu veut se glorifier, mais ça lui échappe complètement. Le livre de Lamentation, c'est un peuple qui souffre, mais c'est de sa faute. Le peuple a rejeté pendant des années les prophètes, désobéi Dieu, des rois crottés qui finalement déshonoraient Dieu, amenaient le peuple dans ci et dans ça, averti, troisième chance, puis à un moment donné, bang! Il est venu le jugement sur la ville. Et ça n'a pas été drôle. 1 million de personnes probablement mortes, déportation. Et Jérémie, pendant 40 ans, qui annonce, puis que pff, aucun résultat, aucun converti. Personne n'écoute. Puis en plus, Dieu dit, « Prie pas pour eux autres, tu perds ton temps. Ah, » Là, il est où le verset dans la Bible de prier, là? « Seigneur, si j'invoque... » Non, pas pour eux autres, ça ne donne rien, là, tu perds ton temps. Fais juste leur donner la vérité, ça va arriver de toute façon. Oh boy, tu parles d'un ministère épanouissant. Hein? Qui veut signer pour un ministère, Jérémie? Pourtant, 2600 ans plus tard, à l'Église baptiste de Trois-Rivières, on parle de la fidélité de ce serviteur, Jérémie. Et on lit les lamentations de Jérémie sur Jérusalem. Et au milieu de ce livre assez intéressant, je vous donne pas toutes les descriptions, mais c'était ma lecture dans les dernières 2 semaines à méditer quotidiennement le livre de Lamentations, verset par verset, ligne par ligne, et de voir comment il avait été écrit avec attention par Jérémie. J'aimerais vous lire juste quelques extraits ce matin dans notre prédication, dans le chapitre 3 en particulier. Et c'est au milieu du chapitre 3 qui est plus long, où se trouve le cœur des vérités qui font toute la différence pour faire basculer le deuxième côté du livre, qui a encore de la souffrance, mais dans lequel tout à coup il y a une lueur d'espoir dans la deuxième moitié des Lamentations. Et qu'il dit ceci au milieu. Souviens-toi. Souviens-toi de ma détresse. Souviens-toi à ma misère. L'absinthe, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Toi, Seigneur, souviens-toi, parce que moi, quand je me souviens de mes problèmes, je suis découragé, je suis déprimé, je ne veux plus rien faire. Je me mets en petite cuillère en forme d'embryon dans mon lit et je braille, puis je ne veux plus sortir. Puis, souviens-toi de moi, de ce que je souffre quand mon âme est abattue. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espoir, c'est dans les versets suivants. Qu'est-ce que maintenant je veux que Dieu me souvienne de moi? Mais voici, par exemple, en attendant, qu'est-ce que je vais cultiver dans mon cœur pendant que je suis en petite boule, en forme d'embryon, dans mon lit, pour m'aider à sortir de mon lit, éventuellement. OK? C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il est en train de dire que le 1 litre de compassion puis le 1 litre de bonté de Dieu, nous autres, quand on le vide, un litre, il est fini. Mais lui, son un litre, il coule tout le temps. Il n'a jamais arrivé dans le fond. Parce qu'il n'y a pas de fond. Il est branché sur la grâce de Dieu. Et il continue à couler. Et jamais tu arrives à l'épuisement de la bouteille des compassions et des bontés de Dieu qui coulent sur toi. Que souvent, tu ne vois pas. Dans notre ingratitude, on en manque beaucoup. De tout ce qui passe, puis il faut cultiver notre cœur à le voir. Mais c'est jamais épuisé. La cagnotte n'est jamais vide. Voilà ce que je veux comprendre. Elle se renouvelle. À chaque matin, il y en a des nouveaux. Il y a une nouvelle affaire qui est apparue. Oh, que ta fidélité est grande. En fait, elle est nombreuse, littéralement. L'Éternel est mon partage, c'est ma part, c'est mon héritage, littéralement, dit mon âme. Ah, l'âme doit me dire des choses à moi-même. Il faut que je me parle à moi-même. C'est pourquoi je veux espérer en lui, ou je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. C'est intéressant ce petit vers-là. Ici, c'est le 7e strophe de 22 strophes au chapitre 3. Il y a 22 strophes de 3 lignes chacune. Et là, ici, l'Éternel, bonté, c'est le mot qui commence avec Tov en hébreu et qui va commencer chaque livre. Tov, 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 Dieu est bon. Puis là, il est bon dans quoi d'autre aussi, Dieu est bon? C'est le même mot qui recommence à chaque début de ligne parce que c'est écrit en acrostiche. Comme on écrirait T, puis là, une phrase commence avec T. T, deuxième phrase commence avec T. Et il travaille comme ça pour apprendre par cœur puis souligner des vérités. Et là, il dit, l'Éternel est bon pour celui qui espère en lui. Pour l'âme qui, malgré que ça ne va pas bien, le cherche. Il est bon. Hein? Une autre chose qui est bon, c'est d'attendre. Hein, non, on n'aime pas attendre, on est impatient. J'objecte Dieu à attendre. Non, c'est trop long. Oui, mais attendre, ça forge le caractère. Fait que je peux pas forger ton caractère si tu me laisses pas te faire attendre. Y a-tu un vote là-dessus, Seigneur? Non, j'ai pas demandé ton consentement. Mais ta collaboration, ça serait vraiment cool pour que tu puisses en profiter puis pas gaspiller l'attente. Vous me suivez? Alors, il est bon d'attendre en silence, sans être un Québécois chialeux, le secours de l'Éternel. Quoi d'autre qui est bon? Ben, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Dieu est bon, c'est bon d'attendre, puis c'est bon dans notre jeunesse d'avoir des problèmes. Il n'a pas dit de vous faire des problèmes. Mais Dieu va récupérer aussi les problèmes que tu fais toi-même. Il est bon d'être éprouvé dans sa jeunesse. C'est bon d'avoir des problèmes en grandissant. Oh, que ça fait du bien aux mamans, ça! C'est bon que ton enfant ait des problèmes. Ah ouais, on essaie d'éviter que nos enfants aient des problèmes, les protéger d'avoir une fracture. Hein? Il y a un père ce matin, je ne le regarderai pas, là, qui a fait une activité hyper irresponsable avec ses enfants. Les mères, vous allez être découragées. Puis évidemment, son enfant s'est pété à cheville. J'en revenais pas. Les hommes, des fois, les activités qu'on peut faire. Puis cet homme-là, il est allé sur le bord de l'eau nourrir des poissons. Puis sa fille s'est versée la cheville. C'est-tu terrible, ça, un peu? Là, vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes, Joël? Mais vous savez, des malheurs arrivent même quand on fait des belles activités bien simples. On n'est pas au contrôle de ce qui se passe, des malheurs. Fait que tu veux protéger ton enfant des grosses affaires, puis tout à coup, il arrive un accident dans un endroit super sécure. Puis nous, on pense que ah, c'est sécure, ça, c'est responsable, c'est bon. Oui, mais les accidents arrivent partout, les amis. Ils n'arrivent pas juste dans les affaires téméraires, ils arrivent dans les choses ordinaires de la vie. C'est un monde brisé, on est fragile. Et il dit, quand ton fils, ton enfant vit des choses difficiles, c'est correct. Aime-le, prends-en soin, mais enlève-y pas l'épreuve. Prends pas sa place, ça fait partie de sa maison de formation. Ça va forger son caractère. Fais juste l'aimer, prie pour lui, mais enlève-y pas son épreuve. Paye pas sa carte de crédit à sa place, il apprendra pas. Laisse-les payer pendant 22 mois son 80$ par mois pour rembourser tous les intérêts, puis que là, ils apprennent, OK, c'est pas le fun, une carte de crédit loadée. C'est pas de l'aimer, ça. C'est de vouloir jouer à Dieu, puis de se mettre dans les jambes de Dieu, de se placer entre Dieu puis l'apprentissage de ton enfant. On se mêle pas de nos enfants dans ce temps-là. On va se le dire. Mais on pense aimer de cette façon-là. C'est pas ça. Il faut aimer en prenant soin, en priant, en encourageant, mais pas en prenant, en enlevant l'épreuve de notre enfant qui forge son caractère. Il dit, c'est bon de porter le joug, d'avoir des difficultés, de travailler fort, puis de vivre que la dureté de la vie, c'est correct, ça forge le caractère pour l'amener à prendre des responsabilités plus tard, à prendre du leadership, à avoir de la compassion pour les autres, avoir un impact dans sa communauté, parce qu'il faut que son caractère soit travaillé. Et ça, c'est les affaires de Dieu. Ultimement. Et Dieu nous accorde d'être participants. Ça, là, c'est une pépinière de vérité ici qui sont là pour nous soutenir quand ça va mal. Vous comprenez? On va lire quelques extraits encore, mais c'est à ça, dans le fond, qu'elle est en train de pratiquer, même si ce n'était pas encore écrit, et qu'elle est en train de vivre. Naomi est la femme qui a tout perdu. Mais voici ce qu'elle dit au chapitre suivant. Il dit, là maintenant, c'est Ruth qui s'en va faire quelque chose d'un peu weird, on va se le dire. Elle s'en va pendant que tout le monde est couché de nuit, se placer auprès des pieds d'un homme un peu réchauffé qui s'est couché, qui dort profondément parce qu'il a pris un petit coup avant de se coucher, après une journée de travail, et qui va se coucher à ses pieds, découvrir ses pieds et tenir les pieds. Je suis pas sûr que comme père, j'aurais recommandé ça à une de mes filles. C'est un peu pour le moins étrange, je vais vous le dire. Mais c'est ça qu'elle a fait. Par la foi en Dieu, que c'était l'homme qu'il fallait qu'elle découvre les pieds, les bons pieds à mettre les mains dessus. Il fallait pas se tromper de pied là, dans le coin, là, parce que ça aurait paru aussi bizarre. Puis que Dieu va faire quelque chose à travers cette drôle d'approche auprès d'un homme. Vous avez connu quelqu'un qui a fait ça? Non. Parce que c'est pas habituel. Et donc, elle fait ça. Et là, elle raconte, quand il se réveille, à un moment donné, puis il commence à avoir frette la nuit, puis là, il se réveille, il y a une femme à mes pieds, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, elle va y parler, expliquer tout ça, et voici ce qu'il va le dire. Comment il va répondre à cet acte de foi de cette femme. Il va dire, il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Un mot d'affection. C'est pas condescendant ici, ma fille, c'est plutôt de l'affection. Il la traite comme un enfant qui un père prend soin. « Sois bénie. » Ce dernier trait de son caractère, témoigne encore plus de ta bonté, parce qu'il avait entendu qu'elle était bonne envers sa belle-mère. Mais il dit, là, ce que tu viens de faire, c'est en haut de la pyramide des bontés. C'est top, là. C'est vraiment sa coche de la foi. Que la première, qui était tout ce qu'elle avait fait, car tu n'as pas cherché les jeunes gens. Tu t'es pas mis sur Tinder pour trouver, dans la communauté juive, un bon parti. T'as pas fait un test de matchage puis voir ce que ça allait sortir. T'as juste fait confiance à Dieu puis t'as pas été vers les pauvres ou les riches, ce qui t'avantage ou quoi que ce soit, ton statut social, t'as fait la démarche familiale. Wow! Ça prend du cran. Puis moi, je descends de Rahab. Ben, il a peut-être pas dit ça, mais quand même. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Il la rassure. Je ferai tout ce que tu diras. Car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Une femme de valeur. Vous savez, c'est pas anodin cette petite phrase-là. parce que le Juif qui lit l'Ancien Testament encore aujourd'hui, il va lire le livre des Proverbes. Et quand le livre des Proverbes termine, tu termines en lisant sur la femme vertueuse du chapitre 31. Et quel est le livre que les Juifs ont placé juste derrière le livre des Proverbes dans le canon hébraïque? C'est Ruth, dans les écrits qu'on appelle. Et la modèle de la femme vertueuse, c'est une Moabite, c'est pas une Juive. C'est-tu pas spécial? C'est elle la modèle, la Moabite, qui a honoré sa belle-mère, qui a cru dans le Dieu des Juifs, qui a suivi la loi de l'Ancien Testament et qui a demandé pour un rédempteur juif. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà une femme vertueuse. Ce n'était pas son argent, ce n'est pas le nombre de leadership qu'elle a exercé, ce n'est pas le nombre de personnes qu'elle a influencées, ce n'est pas le nombre d'influenceurs sur son compte Instagram. Non, c'est la qualité de son caractère de mettre Dieu en premier. Wow! Que c'est marquant, que c'est beau, et que c'est beau de voir cet homme-là admirer cette femme. Je vous lis un court texte, quelques lignes. C'est intéressant de voir le vœu de Naomi pour Ruth, qui reste le même au travers toute l'histoire, c'est-à-dire de lui trouver un mari. Au début, elle dit, non, viens pas avec moi, tu vas trouver un mari là-bas. Si tu es chez nous, c'est pas recommandé de marier une Moabite, tes chances, c'est quasi nul. Là. Tu sais, toi, on va te laisser aller comme vieille fille parce que une Moabite, c'est pas mariable. Là. Elle veut. Fait qu'elle favorise. Elle voit pas le plan de Dieu, n'est-ce pas? Elle voit pas comment Dieu peut inclure une Moabite dans la communauté des croyants. C'est pas normal, c'est pas supposé même. Sauf qu'au début de l'histoire, elle repousse pour trouver un mari. Et à la fin, elle prend maintenant activement part à l'exaucement de ce vœu dans la communauté des croyants. Une fois qu'elle a tout à coup goûté à l'espoir, que là, Dieu a fait un clin d'œil et fait naître l'espoir en elle, tout à coup, son attitude change. L'espoir est renouvelé que Dieu est à l'œuvre. Tu le vois dans le chapitre 3 où là, Naomi passe à l'action, à accompagner, coacher comme mère plus âgée. Elle coach sa bru vers la bonne direction pour suivre l'Éternel. Ce que toute femme d'expérience est appelée à coacher d'autres femmes plus jeunes. Elle le fait là parce que l'espoir est revenu par l'action de Dieu pour la soutenir. Elle sait que Dieu va répondre. Elle est confiante. Ce n'est pas la même qu'on découvre au chapitre 1. Il se passe quelque chose dans son cœur au chapitre 3, lorsque l'espoir renaît, qu'elle voit un clin d'œil de Dieu. Et cette femme va arriver finalement au chapitre 4 et vivre quelque chose. Et là, c'est les femmes autour qui vont dire, « Nous sommes témoins que donne l'Éternel la femme qui entre dans ta famille comme Rachel et Léa, qui ont bâti toutes les deux la maison d'Israël. Montre ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. » C'est ce que les femmes, lorsqu'elles se marient avec Boaz, de la communauté vont lui souhaiter, d'être comme Rachel et Léa. Ces femmes bénies de Dieu, malgré une histoire particulière, qui auront beaucoup d'enfants, qui vont faire toute la communauté juive d'Israël, les 12 tribus. Et donc, ils demandent que ainsi soit fait pour bâtir ta maison. Parce qu'évidemment, une famille qui est en train d'avoir des enfants est en train de bâtir sa maison. Sa maison, c'est pas le mobilier, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du mobilier. C'est les gens. Ça serait mieux de répondre ou de fermer la sonnerie. Je dis ça de même. Puis peut-être que les autres qui ont oublié, on peut le fermer. Et donc, c'est l'idée de bâtir un foyer. Et on peut pas bâtir sans l'Éternel. On peut pas bâtir sans lui. Et là, on lit, l'Éternel lui donna de devenir enceinte après qu'elle ait été bénie, justement, d'être mariée avec Boaz. Elle tombe enceinte et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel. Fait que là, t'as une femme, un homme qui, lui, est béni de ses employés, qui, lorsque Naomi voit que cet homme-là est dans la vie de Ruth, elle dit que cet homme-là soit béni, quand elle apprend c'est qui son nom, elle dit que l'Éternel soit béni. Et là, maintenant, c'est elle qui bénit l'Éternel. On dit, béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas fait manquer d'un rédempteur en ce jour. C'est-à-dire, c'est la communauté qui l'a béni. Ce nom évidemment de son rédempteur, sera crié, célébré en Israël. On parle encore de Boaz, 3000 ans plus tard, plus de 3000 ans plus tard. Il sera pour toi un réconfort. Et le mot ici pour réconfort, c'est celui qui fait revenir ton âme. Le faisant revenir ton âme, littéralement. Et nous, ça traduit dans nos Bibles, il sera un réconfort. Et pour soutien, pour avoir de l'assurance dans ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui fut bonne envers toi plus que si tu avais eu 7 fils. Et ça, là, en Israël, c'est toute qu'une déclaration. C'est toute qu'une déclaration. Les femmes virent d'avance que cet enfant serait son goël, son rédempteur. C'est comme ça qu'on appelait le rédempteur. Comme restaurateur. Autant Boaz, qui était peut-être un peu plus âgé, que ce serait vraiment le fils qui serait celui qui prendrait soin d'elle à long terme. Cette restauration de la vie de Naomi est celui qui prendrait soin d'elle dans sa vieillesse. Il avait aussi une louange pour Ruth. Elle qui était mieux que 7 fils l'aurait été pour sa mère. Dans la Bible, le nombre 7 symbolise souvent l'aspect d'être complet, d'être achevé. Et l'attribut ici qui est donné à Ruth est frappante à la lumière de l'importance des fils dans l'Ancien Testament pour continuer le nom, maintenir la lignée. Et celui qui avait plusieurs fils était assuré d'un soutien dans sa vieillesse et de continuer sa lignée familiale. Mais avoir une fille, Moabite, mais vaillante comme elle, était mieux que d'avoir eu 7 fils juifs. Quel compliment! Tu ne peux pas offrir un plus grand compliment à une femme de cette époque-là. C'est la plus grande éloge que tu es en train de faire sur la valeur de cette femme. Maintenant, c'est intéressant ici de voir, il a fait revenir son âme. Rappelez-vous, c'est une femme qui se sent maudite. C'est une femme qui se sent délaissée de Dieu. C'est une femme qui est amère. Elle n'est pas juste amère. Elle est amère puis elle est très, très amère. Puis elle veut même pas porter son nom, tellement que son nom reflète pas sa réalité. Appelez-moi Mara. Je suis la femme amère. Qui veut se tenir avec une femme amère? Qui veut prendre un café avec une femme amère? Qui veut l'inviter pour souper une femme amère? Une femme amère, ça chiale. C'est bougonneux. C'est pas content. Et là, tout à coup, cet enfant d'avoir un rédempteur fait revenir son âme, la réconforte. Et qui fait tout ça? Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel. Et c'est intéressant parce que dans Lamentations chapitre 1, 3 fois, il prie Jérémie de faire revenir leur âme. Parce que dans cette situation, il se rappelle comment la ville avait plus de nourriture. Et une des expressions quand tu n'as plus de nourriture, c'est que tu as besoin de faire revenir ton âme. Si tu manques de nourriture, tu as faim, Seigneur, fais revenir notre âme, on va manger et là, on va vivre une satisfaction, un réconfort pour mon âme et je vais revivre. Parce que le mot souvent traduit par âme, vous l'avez dans votre Ancien Testament, souvent par le mot personne ou par le mot vie. C'est peut-être juste un 25 à 30% du temps que le mot âme va être traduit vraiment âme. Il y avait 50 personnes, 50 âmes. Il y avait, on va parler souvent de vie dans les psaumes, ça ne sera pas traduit âme. Ça dépend du contexte, c'est un petit peu, c'est pas si simple que ça de le traduire avec justesse parce qu'il a une certaine latitude, le mot. Laisser faire revenir son âme. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Parce que c'est ce qu'il demande dans la souffrance, Jérémie au chapitre 1, fais revenir notre âme, fais revenir notre âme. Et elle avait été revenue à Bethléem avec un rien. Et elle a besoin de faire revenir son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est plus que ici la nourriture et la consolation que désire quelqu'un lorsqu'il est dans l'épreuve. C'est un des éléments. L'idée est que l'âme a besoin de revenir de son mauvais état. Ça dépend du contexte, mais selon le contexte qu'il se trouve. Soit cela veut parler d'un besoin de repentance. Hein? Premièrement, de revenir en proximité à Dieu, duquel on s'est éloigné, qu'on s'est refroidi spirituel ou qu'on a développé une amertume. Puis que là, on n'ose même plus lire la Bible tellement qu'on en veut à Dieu de permettre une épreuve dans ma vie pour laquelle je sens que ce n'est pas juste. Qu'il y en a eu trop, me semble. Et c'est facile pour nous, vous savez, dans l'usure de l'épreuve, dans l'accumulation un derrière l'autre d'épreuves, de commencer à sentir que là, Dieu t'en met pas mal épais, là. Puis qu'on commence à en vouloir à Dieu. On n'oserait pas le dire. Mais dans le fond, on est aigri contre Dieu. Qu'on trouve qu'il en met trop. T'exagères. Et là, notre âme a besoin de revenir en paix, d'être renouvelée de vie, alors qu'on sent dans l'épreuve parfois qu'on ne vit plus. Vous avez déjà vécu ça ou est-ce que tu as l'impression dans ton épreuve que tu fais juste survivre, t'encaisses? Et là, tu as besoin de recommencer à vivre. C'est de ça que ça parle ici. De recommencer à vivre quand tu n'as plus le goût de la vie. Quand tu es au bout, comment tu considères la mort comme un soulagement? Et elle a passé par là. Il ne faut pas surtout sous-estimer l'usure de l'épreuve et comment loin ça peut nous amener à en vouloir à Dieu, aux autres, et devenir des personnes désagréables à côtoyer dans notre tristesse, dans notre colère. Parfois, dans l'épreuve, on a l'impression que la vie s'arrête et seulement lui peut nous faire revenir à la vie. Puis l'idée d'un âme qui est dans un état usé d'épreuve, de souffrance, qui manque de nourriture, qui a besoin d'être fortifié. Fait que tu te sens tellement faible, tu as besoin de nourriture spirituelle, de nourriture physique pour reprendre des forces. Mange pas pendant 3 jours, puis là, tu fais quoi après un repas? Hey, là, t'es galvanisé, t'es à bloc. Hein? Parce que tu as senti une faiblesse pendant un certain temps, d'un rafraîchissement pour reprendre pleinement sa vie, encourager sa vigueur à travers peut-être un moment de maladie, de retrouver la joie perdue, retrouver son moral. Voilà toute l'idée. D'où vient cette idée de restaurer? Parce que rappelez-vous, c'est la femme duquel on a dit, elle est revenue avec rien. Dieu l'a fait revenir avec rien. Et là, son âme se sent rien. Et il a besoin de retrouver sa valeur, sa source, sa joie en Dieu. Écoutez bien ceci. Là que je vous ai dit cette expression-là, de faire revenir mon âme. Écoutez bien 2 endroits que l'Ancien Testament nous indique, un endroit où on fait revenir notre âme. Psaume 19, 8, vous le connaissez, ça dit ceci. « La loi de l'Éternel restaure mon âme. Elle fait revenir mon âme. » Littéralement. Le psaume 23, « Le bon berger conduit dans le vert pâturage pour faire revenir mon âme. » C'est comme ça que c'est écrit. « Pour me restaurer, me redonner des forces par une nourriture qui vient de mon bon conducteur, de mon bon berger. » C'est lui qui fait revenir mon âme. Que c'est beau de voir l'Éternel à l'œuvre. Je vous lis maintenant la 2e section, je vais vous lire, de Lamentations chapitre 3. Il se tiendra solitaire et silencieux. Le jeune homme qui souffre, là, voici les 3 versets, qu'est-ce qu'ils disent au jeune homme qui souffre, qui est éprouvé dans son caractère. Le jeune homme ici, on parle de quelqu'un en bas de la quarantaine, OK? Il se tiendra en solitaire et silencieux, qui revient là. Parce que l'Éternel lui impose, OK? Ça fait partie de son boot camp, de son camp d'entraînement. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Le but, c'est pas de lui enlever l'espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasira d'opprobre. Il y aura un moment lorsque tu passes par là, c'est difficile, ça va forger ton caractère. Comment passer à travers? Ça. Comment survivre à ce qui est bon pour moi, qu'il permet dans ma jeunesse que je vive, que je sois éprouvé, qui va forger mon caractère? Il donne 3 vérités au verset 31 à 33. Puis écoutez bien les 3 vérités. Elles sont vraiment importantes, là. Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Premièrement. Ce qu'il est en train de dire, ça va juste durer un temps. Numéro 1, un temps. On le dit ensemble? Un temps. Ça va s'arrêter à un moment donné. Ce que tu vis présentement, ta peine, ton sentiment d'échec, le rejet de quelqu'un, la perte d'un emploi, l'échec d'un test, la perte de ton couple, un enfant éloigné. Ce que tu vis présentement, ça va pas toujours durer. Ça va faire un temps. Décourage-toi pas. Un temps. Deuxièmement, quoi? Il dit, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Le Seigneur t'abandonneras pas. Ça va durer un temps, l'impression. Deuxièmement, tu auras toujours sa compassion disponible pour toi. Dieu, il pâtit avec toi dans ton épreuve. Il te supporte dans ton épreuve. Il pleure avec toi. Il est l'épaule dans ton épreuve. Il est la caresse que tu as besoin dans ton épreuve. Et il ne fait pas des fois de façon visible devant toi, il le fait par quelqu'un qui t'appelle, qui prie pour toi. Tu ne le sais même pas. Mais Dieu a compassion. Il a de la peine de ce que tu vis. Pense pas que Dieu est indifférent. Et premièrement, là, ça va durer un temps. Deuxièmement, Dieu, il pâtit avec toi. Il a de la compassion. C'est dans ses tripes pour toi parce qu'il est un père parfait. Et c'est dans les tripes que ça se vit, cette compassion-là qu'on a pour les uns pour les autres. Troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les fils de l'homme. Là, on aurait l'impression dans la traduction, c'est un peu embêtant. C'est vraiment une phrase difficile à traduire en hébreu. Parce que là, t'as l'impression, OK, c'est par accident. Mais c'est pas ça qu'il est en train de dire ici, littéralement. Et je vous lis littéralement comment il est écrit en hébreu. Il dit, car ce n'est pas à partir de son cœur, ou ce n'est pas hors de son cœur qu'est venue l'épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce n'est pas à partir de son cœur qu'est venu le malheur qui te prend. Il est en train de dire que c'est pas le désir de son cœur, c'est pas ce qu'il aime faire, avoir des conséquences sur toi. C'est juste que la loi dit ceci, dans un monde pécheur, puis il y a des conséquences. Et là, il te permet de vivre des conséquences qui vont forger ton caractère. Mais c'est pas parce que le goût que tu souffres. Vous me suivez? C'est pas hors de son cœur que viennent les maux de notre vie. C'est pas un débordement de ce qu'il est. C'est pour ça que quand on lit dans l'Ancien Testament, on dit il va bénir jusqu'à la millième génération, hein? Mais il va punir jusqu'à deux, troisième. Il aime pas ben ça. C'est pas ce qu'il aime faire, Dieu. Punir. Vous me suivez? Bénir à provision. À profusion, il aime ça. C'est naturel pour Dieu de voir bénir ses enfants qu'il aime. La punition, c'est comme vous et moi quand on doit donner une conséquence. Écoute, je le fais pas, je suis pas en train de t'aimer. C'est mal, je t'ai dit pas faire ça. Tu frappes l'autre, l'autre se sent comme ça. Il faut que tu comprennes qu'il y a des conséquences à ça. Fait qu'à soir, tu te couches plus de bonne heure ou tu perds telle activité. Ou puis on veut qu'il comprenne que ça fait du mal, on veut l'éduquer. Puis là, ça passe par aussi un malaise, par quelque chose qui est pas agréable pour faire entrer émotionnellement l'apprentissage par un souvenir désagréable et non abusif. Vous me suivez? Mais c'est pas de son cœur, c'est pas par plaisir. Parce que notre Dieu a tellement de cœur pour nous. Et là, c'est comme s'il amène la compassion vraiment une coche plus loin pour redéfinir que Dieu ne s'acharne pas sur moi quand ça va mal. C'est pas par plaisir que tu vis ce que tu vis. Et j'aimerais vous dire ceci. Notez bien, verset 33. Soulignez-le dans votre Bible. Ça, c'est le verset qui est au milieu, géométriquement, du livre. En plein milieu du livre, il y a cette déclaration. Les malheurs qui t'arrivent, ça sort pas du cœur de Dieu pour toi. Il trouve pas de plaisir là-dedans. En plein milieu de ce livre de lamentation, on nous rappelle le grand cœur paternel, aimant de Dieu pour nous réconforter dans les difficultés. Le temps avance. Je vais simplement lire ces quelques versets en terminant. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine. Il éleva, et les voisins lui donnèrent le nom, un nom en disant ceci. Un fils est né à Naomi, et elle l'appelle Obed. Il n'y a aucun de sa famille qui était appelé de même, et c'est un peu drôle de voir que c'est la communauté plutôt que les parents, ce n'est pas habituel du tout, c'est assez inusité, que c'est la communauté autour qui l'a appelé Obed, qui veut dire serviteur. Et celui-ci sera le père d'Ésaïe, qui sera le père du roi David. En fait, c'est son arrière-grand-mère. Il y a un autre entre les deux. L'arrière-grand-mère de David, c'est Ruth la Moabite. Wow! Quelle histoire! Comment Dieu ramène le cœur d'une mère amère et la fait passer à travers un processus pour lui rappeler que Dieu l'aime. Prends soin d'elle. Décourage-toi pas. Voici des vérités dans la lamentation qui vont t'aider dans ton épreuve, dans ta perspective de mère devant les choses qui te pèsent le soir quand tu dors, puis que tu réfléchis à telle ou telle chose qui dans tes tripes, que tu ressens pour ton enfant, pour ton mari, pour ta sœur, ton beau-frère, pour la personne dans l'église qui est dans ton groupe maison, pour ta voisine, pour la personne au travail que tu pâtis pour à cause de ce qu'elle vit. Voici les vérités. Quand tu es dans l'épreuve pour te soutenir et t'encourager. Voici ce que Jésus dit, le descendant de David. Prenez mon joug. Il dit, c'est bon pour le jeune d'avoir un joug, de travailler fort, d'être éprouvé dans leur caractère. Il dit, prenez mon joug sur vous maintenant. Le joug. Et recevez mes instructions. Pourquoi? Parce que mes instructions et mon joug sont doux. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ou, on pourrait littéralement dire aussi, l'expression de l'Ancien Testament, je vais faire revenir vos âmes, parce que moi je vous donne, parce que moi je suis doux et humble, j'écrase pas. Et vous savez, quand Jésus dit ça, Jésus est l'image du Père Céleste. Et c'est ce que notre Père Céleste est, doux et humble de cœur pour ses enfants. C'est Jésus qui fait ça. Si vous n'avez pas rencontré le nom de Jésus encore, vous n'avez pas cru en Jésus, j'aimerais vous dire que peu importe ce que tu vis présentement, la solution à ton problème, c'est ce maître incroyable qui est Jésus. Jésus est la solution pour Trois-Rivières et pour notre nation, pour ce monde, pour le cœur de chacun de nos enfants. Jésus est le besoin pour mon âme lorsque je suis en chicane dans mon couple, lorsque j'ai un conflit. Jésus est celui qui enlève le joug et qui transforme ma situation et qui permet que l'épreuve ait un sens et que mon caractère puisse être construit et avancé. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne soyez pas laissé l'âme découragée. Dieu ne veut pas que tu sois laissé sans espoir, découragé. Jésus a tout parcouru le chemin qui permet de voir faire revenir ton âme. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit comme parent bâtit complètement inutilement. L'Éternel doit être celui qui construit votre foyer. Que soyez grand-père, grand-mère et continuez à être parent pour la vie. Quand ils partent de la maison, on s'en rend compte, hein, ils reviennent tout le temps. Si on est parent pour la vie, c'est un contrat à vie, cela. Là. On les élève plus. Mais la réalité, j'en ai 7 qui sont partis de la maison ou certains qui sont revenus. Ça revient toujours, puis c'est correct. C'est là que tu dis, OK, c'est pas fini quand ils partent. Ça continue. C'est différent. Hein? Ça prend une autre forme. C'est un apprentissage pour nous à dépendre de Dieu. Je termine par cette analogie pour vous encourager ce matin. Vous pouvez fermer vos bibles et juste écouter simplement cet encouragement qui s'appelle « La chambre noire de Dieu ». Écoutez bien ceci. C'est une méditation qui part à partir de Lamentations chapitre 3, versets 6 et verset 26, qui dit « Il me fait habiter dans les ténèbres ». C'est comme ça qu'on se sent dans l'épreuve. Il me fait habiter dans des moments de noirceur. Mais il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pourquoi? Pour développer des photographies, le film doit d'abord passer par une chambre noire. Ce n'est qu'après que les produits chimiques auront fait leur travail dans l'obscurité un certain temps, qu'ils sont plus risqués d'être exposés les négatifs à la lumière et de produire un œuvre final qui sera beau, clair. La lumière qui aurait détruit le film en fait maintenant ressortir après le processus de noirceur la beauté. Dieu nous fait passer par des chambres noires, les amis, pour développer notre vie spirituelle également. En passant par les épreuves, les chagrins, les frustrations, les déceptions, à l'image de Christ est produite en nous à travers tout cela. Ensuite, nous sommes prêts à être exposés à la lumière. Trop souvent, nous tenons les gens et les circonstances autour de nous responsables de notre désespoir, en se victimisant et en bâtissant beaucoup de frustration. Bien qu'ils puissent être des causes secondaires et participer, nous devons nous rendre compte que la main du Père Céleste nous voile momentanément la lumière, alors qu'on est dans un moment de noirceur, à brouiller, comme on dit en Québec, à brouiller du noir, du découragement, de rien voir autour de nous. C'est par grâce qu'il nous fait vivre telle expérience parce qu'il veut nous faire bénéficier des avantages que procure l'obscurité pour un temps, pour faire sortir quelque chose de beau. Êtes-vous présentement dans une chambre noire de Dieu? Alors ne désespérez pas. Le Seigneur est en train de développer la beauté de votre ressemblance à Christ pour l'exposer dans sa galerie d'art de l'éternité. Ne cherchez pas à revenir à la lumière trop tôt. Respectez le temps de Dieu dans tout cela. Attendez son heure parfaite, sinon vous allez gâcher l'empreinte de son image sur le film de votre vie. Dieu nous transporte dans sa chambre noire pour développer la ressemblance à lui et à lui seul. Amen. Prions ensemble. J'ai invité l'équipe de louanges à s'approcher. Père Céleste, merci pour ta parole qui montre des gens comme nous, des humains normaux qui passent des moments difficiles, qu'on a besoin d'encouragement, et de voir comment tu as pris soin. Quel encouragement pour notre âme, quel encouragement pour les mamans avec leur cœur maternel, leur désir de prendre soin, qui sont souvent accablés par les souffrances autour d'eux, de ceux qu'ils aiment. Et parfois, c'est lourd pour eux de voir ceux qu'ils aiment souffrir, qu'ils passent des soirées à pleurer, à écouter, à prier, et espérer, Seigneur, que va sortir quelque chose de bon. Et entre-temps, Seigneur, tu nous donnes des histoires comme ça. Tu nous donnes ta parole pour nous fortifier jusqu'au moment où ce que la lumière va revenir. Où ce que là, un sens à tout ce chaos et toutes ces ténèbres puissent être trouvés. Et ce matin, peut-être certains sont dedans et ont besoin ce matin de ta grâce. Ont besoin de vérité de ta part pour soutenir. Seigneur, parle au cœur de tes enfants ce matin. Peut-être quelqu'un ce matin n'a pas besoin juste de ça, a besoin de connaître Jésus. N'a jamais donné sa vie à Jésus. Jésus, et s'il mourait aujourd'hui, n'a aucune certitude de la vie après la mort. Quel gâchis, Seigneur! Oh, Seigneur, qu'aujourd'hui, en ce jour du 12 mai, nos comptes soient à jour avec le Créateur. Que nos cœurs soient au diapason avec celui qui nous aime, qui nous a créés et qui nous a donné une bouée de sauvetage dans le nom de Jésus. Un Jésus qui est mort pour mes péchés. Un Jésus qui a pris ma peine, qui a pris mon injustice, qui a payé pour que moi je puisse être pardonné de Dieu parce que je ne pouvais pas moi-même. Ô Seigneur, puissions-nous croire aujourd'hui dans le Fils Jésus, symbole de ton amour pour nous, unique bouée de sauvetage pour l'humanité, Jésus de Nazareth, descendant de cette Ruth, de cette Naomi, descendant de cette Rahab, descendant de ce David et de pécheurs comme nous. Oh, quel réconfort, Seigneur! Que Jésus soit précieux dans nos cœurs pour avancer. Puissions-nous, Seigneur, porter le joug que Jésus nous invite à prendre parce qu'il est doux et humble, pas écrasant comme le monde nous donne, pas pogner sur la productivité, puis sur le succès, sur les apparences que le monde nous donne, mais juste un papa qui a tout fait pour nous par Jésus, qui nous donne l'Esprit Saint. Oh, que nos cœurs se tournent vers toi, Seigneur, en ce jour de célébration pour souligner les mamans. Et qu'on n'oublie pas qu'on a un papa qui prend soin des mamans. Qu'on a un papa qui remplit tous les rôles de père et de mère parfaitement. Et dont son fils est la preuve de son amour. Que Seigneur, on fasse la paix avec toi. Qu'on renouvelle encore nos vœux, Seigneur, où je te demande pardon. Merci d'être mort à ma place. Je veux croire dans ton fils. Pas juste pour le salut aujourd'hui, mais pour chaque jour, pour continuer à marcher et grandir. Que l'Évangile prenne place chaque jour, renouvelé chaque matin pour marcher à ta suite. Et nous te le prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.